Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et l'addiction aux réseaux sociaux, c'est un truc qui me touche et qui m'a parlé parce que je me suis beaucoup renseignée dessus, étant donné qu'à une période, je trouve que j'avais perdu beaucoup en créativité parce que je scrollais trop, parce que je perdais beaucoup de temps sur les écrans. Et je me suis dit, moi, c'est mon métier, donc ça va encore. Il y a moins de pots cassés, on va dire, que quelqu'un dont c'est pas le métier, qui va se perdre là-dessus, qui en plus peut-être fait un métier qui lui plaît pas vraiment. Enfin, je me suis rendu compte de l'ampleur que ça pouvait prendre et de ce que ça faisait comme effet sur le cerveau. J'ai perdu un peu de ma joie, quoi, au quotidien. Et quand j'ai compris que ça pouvait atteindre autant et que je faisais partie de ce...
c'est ce que j'allais te demander.
Cet engrenage qui pouvait faire en sorte que les gens aillent mal, je me suis dit pourquoi pas faire un contenu là-dessus.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. T'as pas l'habitude ? T'écoutes des podcasts un peu ?
J'ai écouté des podcasts à cause de Marguerite et ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé passer ce moment à écouter des podcasts. Mais...
Marguerite, c'est ton agent.
Oui, Marguerite.
Ton agente.
Pizza.
On dit Marguerite, on dit agente.
Moi, je dis agent.
Toi, tu dis agent. Toi, tu le féminises pas.
Moi, je dis pizza.
En par toi. De...
Je vais dire agente.
Voilà. Dis agente, Marguerite. Let's go. Ah, on est donc avec Poxy. Salut Carla. Putain, tu sais que vraiment, ça fait depuis ce matin que je suis en train de regarder un peu des trucs que tu fais et tout. Et je me dis, il faut pas que j'appelle Clara parce que je suis un peu dyslexique.
Ah, mais j'ai totalement l'habitude qu'on m'appelle Clara.
Bah oui, je me doute.
C'est horrible. Aucun souci. Vraiment.
Tu peux m'appeler Florent si tu veux.
Très bien.
Parce que c'est mon nom, mais tout le monde se trompe tout le temps.
Flobrice. C'est peut-être plus adéquat.
Bienvenue. Bienvenue Carla dans l'histoire de succès. Ça me fait plaisir que tu viennes là parce que tu disais que c'était la première fois que tu faisais cet exercice de podcast, quoi.
Exactement. J'ai écouté des podcasts il y a peu et je me suis dit pourquoi pas essayer cet exercice qui a l'air très ASMR.
C'est toi qui décides de ce que tu peux parler comme ça. Bonsoir.
Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans l'histoire de succès. J'espère que c'est pas trop désagréable à écouter.
Et tu sais, c'est un format un peu long, on a le temps, ce qui est à peu près pas trop ce que tu fais, c'est-à-dire que tu fais plutôt des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est vrai que
c'est plutôt ton métier, quoi.
J'ai une forme d'impatience à avoir l'idée tout de suite et monter tout, enfin filmer, monter et poster dans la foulée, même s'il est 2h du matin, je poste.
Ah, tu postes à 2h du matin?
Oui, il n'y a vraiment pas d'heure pour moi.
Tous les gens qui travailleront dans les algorithmes, etc., et j'imagine ton agente te dit non, mais c'est une connerie, il ne faut pas poster à 2h du matin, il faut poster quand les gens sont là.
Alors, les gens du métier vont dire que c'est une connerie, mais Marguerite ne me dira jamais que c'est une connerie parce qu'elle sait que si elle me dit ça, ça m'éloignerait de moi, en fait. Je suis comme ça, je poste à n'importe quelle heure. Ça fait partie de ma ligne éditoriale qui est très bordélique, finalement.
Ok. T'as 23 ans?
J'ai eu 24.
Tu viens d'avoir... Ah, bravo.
C'était le meilleur anniversaire de ma vie.
Pourquoi?
Petit big up à Luc de Taqueria, rahaha. Pour la petite histoire, c'est un restaurant mexicain qui vient d'ouvrir. Je me baladais dans la rue.
Dans Paris, donc?
Exactement, dans Paris.
Il y a plein de gens qui écoutent de partout.
Dans Paris 11e, je me promenais et je suis tombée sur leur enseigne où il y avait marqué Taqueria, rahaha. Rahaha, qui est le rire espagnol, si je ne me trompe pas. Et j'ai trouvé ça drôle, j'ai pris une photo de ma tête avec ça à côté et je l'ai posté, je savais même pas que c'était un restaurant. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Coucou, c'est notre restaurant, est-ce que tu pourrais nous taguer ?» J'ai dit « Bah avec plaisir ». Et une semaine et demie après, c'était mon anniversaire, j'avais discuté un petit peu avec le comte de ce resto et j'ai demandé s'ils seraient d'accord pour m'accueillir moi et mes amis pour mon anniversaire. Ils ont été adorables, ils m'ont super bien accueilli et j'ai passé une des meilleures soirées d'anniversaire de ma vie, la meilleure d'ailleurs.
Jusque-là?
Jusque-là, c'était les meilleurs, les 24 ans.
Ah ouais? Mais qu'est-ce qui s'est passé en particulier?
Bah déjà, réunir tous les gens que j'aime dans une même pièce. C'est-à-dire que ça m'est rarement arrivé d'être dans une soirée et que peu importe le groupe où je me trouve, j'ai tout le temps le big smile et je suis ravie de discuter avec chaque personne qui était dans cette pièce.
Tous les gens de groupes différents, c'est ça?
C'est ça.
Ça, c'est toujours un peu... c'est touchy, quoi.
Non, moi, franchement, j'avais pleinement confiance.
Okay.
Une quarantaine de personnes qui se sont tous très bien entendues. Et ça s'est passé comme je le voulais.
Ok. Comment tu définis ton métier? Comment tu t'appelles? Quand tu dis « Salut, je m'appelle Poxy ».
C'est toujours hyper délicat parce que moi-même, je ne sais pas, sachant que j'ai envie de faire plein de métiers différents. Un coup, je croyais que j'étais DJ, mais je ne sais pas utiliser des platines. Un coup, je pensais que j'étais cascadeuse, mais je n'ai jamais fait d'école de cascade. Je me suis prise aussi pour une journaliste. Mais si on veut, grosso modo, je pense que je suis créatrice de contenu ou influenceuse. C'est comme Carla ou Clara, ça ne me dérange pas. Personnellement, ce terme ne me dérange pas.
Okay.
Même si dans l'esprit de certaines personnes, il est controversé. Mmh. Moi, ça me pose pas de problème. Je crois que c'est le terme, en fait.
T'es pas contre le fait qu'on t'appelle influenceuse? C'est pas un truc que tu repousses?
Bah, si on part du principe qu'on met tout le monde dans le même panier, ça m'embête parce qu'on est différents créateurs de contenu, influenceurs. Il y a différents types de créateurs de contenu sur Internet. Mais moi, je pars du principe que ça me dérange pas. Je sais ce que je suis. J'ai pas besoin que les autres aient l'impression que... Enfin, j'ai rien à prouver, quoi.
Ouais.
Merde.
Bah ouais. Et tu dis ça, mais tu dis ça, on sent vraiment que ça... Que ça résonne en toi, quoi. Tu vois que c'est pas juste un discours que tu sors, quoi.
Bah, j'ai senti que ce terme pouvait poser problème à certaines personnes. Je l'ai observé et je me suis posé la question, est-ce que moi ça me pose problème? À un moment donné, ça m'a posé problème et je me suis dit, pourquoi est-ce que je m'emmerderais à ce que ça me... Enfin, pourquoi je me poserais ces questions? Enfin, ça me regarde moi au final, si ça pose problème. Ça regarde pas les autres.
Ah ouais, et le regard des autres, tu t'en fous un peu?
Globalement, oui.
Oh ouais.
On en discutait tout à l'heure avec Marguerite, justement, c'est un peu le même principe.
Marguerite qui va donc être une guest star de ce podcast en permanence, qui est dans la pièce là, juste à côté de nous.
Sur son petit ordinateur.
Qui travaille.
En train de traiter les différents contrats. On discutait tout à l'heure d'une vidéo que j'ai filmée et on se posait la question... Tu sais, quand on se trouve pas bien sur une vidéo ou sur une photo, ah, mais du coup, je la poste pas, bah, moi, pour moi, la question, c'est je la poste.
Ah ouais, ok.
Parce que si tu... C'est vraiment, je trouve, des fioritures. Je sais pas si c'est le terme, ouais. Pour moi, c'est vraiment un truc qui peut te parasiter le cerveau pour rien, quoi. C'est le genre de questions qu'il vaut mieux éviter de se poser, mais on se les est toutes posées.
Et oui, c'est ça. Mais en fait, tu les regardes, tu te les poses, tu te les regardes et tu fais...
Je me dis, ah, ça me fait chier, mais attends, pourquoi ça me fait chier? Bah, parce que j'ai décidé que ça me faisait chier, mais si je décide que ça me fait pas chier, ça me fait plus chier.
Mais d'où te vient cette maturité, Carla?
Bah, j'ai 24 ans le 1er mai, du coup...
Non, c'est jeune, 24 ans, calme-toi. Non, mais c'est vrai, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes à 24 ans, surtout exposées comme t'es, on va en parler un peu, mais t'as des millions d'abonnés sur TikTok, sur Insta et tout, il y a plein de gens qui te regardent. Et t'es ultra détaché de ça, j'ai l'impression.
Bah, je pense qu'il faut une certaine légèreté que j'avais déjà avant et que je mets encore plus en place et que j'ancre encore plus.
Okay.
pour me sentir bien dans ce que j'entreprends et pouvoir évoluer correctement. Parce que si je me parasite ou que je me pose trop de questions tout le temps, je pense que j'avance pas bien. Je suis passée par des périodes où je me suis posé plein de questions et je voyais bien qu'au final j'avançais pas. Je me disais, ah, je sais pas si je vais poster ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin, la remise en question, la perte de confiance en soi, et ça fait qu'on n'avance pas. Avec la peur, ça bloque plein de choses. Alors que sans la peur, si on la retire et ça nous regarde nous, et ben on peut avancer.
Comment t'as fait pour retirer la peur?
Parce que casser les portes.
Comment t'as fait pour retirer la peur?
Bah, je pense que j'ai touché un peu le fond de la piscine à un moment et ça m'a saoulée. Du coup, je me suis secouée et on m'a aidée, évidemment. J'ai ma meilleure amie, j'ai ma prof aussi dans mon école. Je fais une école d'acteurs qui m'a donné, qui nous transmet toujours aujourd'hui des super valeurs et c'est des piqûres de rappel.
Waouh.
Waouh.
Non, mais.
Mais on a besoin de piqûres de rappel, hein, parce que je dis ça aujourd'hui, mais dans 3 jours, je peux très bien être là. Tu vois?
Ça t'arrive, tu fais souvent des hauts, des bas?
Ouais, mais franchement, en ce moment, c'est plus des hauts.
Ok.
Ouais. J'avais une période fin d'année dernière où c'est un gros bas. Et là, depuis le début de l'année, je suis sur une belle lancée, mais je suis totalement consciente que je peux redescendre. Mentalement, je parle. Mais je sais, du coup, que je suis totalement capable de rebondir et de m'en sortir.
On a commencé. Deep direct, hein, t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, mais bam, on est tombé.
Je t'ai parlé du fond de la piscine.
Boum. Comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles au fond de la piscine?
Je pense que c'est une accumulation de plein de choses, de passé. Enfin, je pense que c'est, je dirais, le passé, des trucs un peu, des trucs que j'ai construits dans mon esprit, pas de la bonne manière. Donc c'est des valeurs ou une morale que tu t'es infligée à toi-même due à une éducation ou à ton entourage qui fait que tu t'es formaté comme ça. Du coup, dans la vie, on rencontre... là, je suis assez floue, mais dans la vie, on rencontre plein d'événements. Je sais plus... J'ai eu un truc un peu relou qui m'est arrivé fin d'année dernière qui m'a complètement chamboulée. En fait, c'est ce truc relou qui a fait que j'ai dans ma tête, c'est devenu un brouillon, un bazar total. Et donc, j'arrivais plus à trouver la porte de sortie pour essayer d'aller mieux.
Okay.
Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse et j'ai toujours su tirer le positif du négatif. Mais là, c'était un peu trop pour moi. Et okay. Du coup, je trouvais pas la porte de sortie et j'ai eu les deux événements qui m'ont...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qui m'ont aidé à...
aller toucher le fond de la piscine, finalement. C'est ça que tu dis?
Non, justement, c'est quand j'étais au fond de la piscine, cette petite métaphore. Et encore, je sais même pas si c'était vraiment le fond de la piscine, parce qu'on sait pas ce que la vie me réserve. Hein. Mais j'espère que c'était ça. J'étais pas très bien pendant 3-4 mois, en soi, ce qui est assez court. J'ai décidé de voir une psy qui m'a pas du tout aidée.
Okay.
J'ai arrêté de la voir et j'ai eu ma meilleure amie plus ma coach de l'école qui m'ont aidé à trouver les clés pour aller mieux. Et depuis, tout va bien. Je sais plus ce que c'était le début de ma phrase. Ça m'arrive souvent.
C'était à peu près ça. Mais en gros, moi, j'ai envie de dire aussi, attention, quand vous allez voir une psy qui vous convient pas, en fait, allez voir d'autres psys parce que c'est un peu comme des dentistes. Il y en a avec qui ça va mieux se passer, d'autres avec qui ça va moins bien se passer. Il faut pas hésiter à aller multiplier les expériences.
La première que j'ai vue. Ouais, waouh, exactement.
Incroyable.
La première que j'ai vue, pas ouf du tout, pourtant je l'ai vue genre peut-être 6-7 fois.
Okay.
Et au final, après coup, je me suis rendu compte qu'elle m'a pas du tout aidée, bien au contraire. Alors que la deuxième que j'ai vue, elle avait un discours totalement différent. Et d'ailleurs, elle s'en fichait de prendre des séances avec moi. Elle me disait, si toi tu penses que t'arrives à le gérer, fais-le à ta sauce. Et la réalité, je pense, en tout cas pour moi, ça dépend peut-être des personnes. C'est que c'est nous-mêmes notre meilleur allié, quoi.
Bien sûr. Et une psy qui arrive, une psy qui arrive à comprendre que tu as des ressources en toi, je trouve ça trop cool
de
dire.
Elle l'a capté.
Ouais.
Elle a capté que je pouvais me porter mieux, justement, en n'ayant pas l'impression d'être. J'ai pas le terme. D'être. Finalement, réaliser que c'est pas insurmontable, quoi.
Bon, on va commencer cette interview, tu vois, ça fait 10 minutes qu'on parle, mais on a même...
Ah, ça n'a pas commencé?
Bon, si. Non, mais ma première question, parce que j'aime bien revenir de là, ma première question c'est, à quoi tu ressemblais, Carla, quand tu avais 7-8 ans?
Toupou, tu connais Toupou, le dessin animé?
Je crois que je ne l'ai pas.
Bon, j'étais pas rousse, mais j'avais les cheveux très longs et je grimpais aux arbres, j'étais un peu un garçon manqué, j'avais beaucoup d'énergie... Et toujours des... Bizarrement, à 6-7 ans, je crois que j'étais quelqu'un d'hyper organisé. Mon père, il m'a raconté que mon sac à dos était toujours parfaitement rangé, que je perdais jamais rien, que j'étais hyper carré. Tout l'opposé d'aujourd'hui. Vraiment, si tu regardes mon sac à main, c'est Tchernobyl. Hein. Vraiment, je... faut pas y aller.
Et pourquoi à 6-7 ans tu faisais ça? C'était, il y avait un côté bon élève
Bah ouais. À 6-7 ans, j'étais... Je sais pas, j'avais... Je pense que, comme ce que je fais un peu aujourd'hui, j'observe beaucoup et je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et je pense que ça devait me plaire de voir mon père qui était un peu maniaque.
Ah, ok.
Et donc, je devais le copier un petit peu, l'admirer. Et j'étais hyper carrée, comme Marguerite, aujourd'hui.
Marguerite, qui est vraiment omniprésente dans ce podcast. Marguerite, coucou. T'as dit que t'étais un garçon manqué. Elle est pas horrible cette expression?
Ah oui, mais bon, dans les, dans... si je sais, j'en ai.
Il faut qu'on arrête de l'utiliser.
Bah ouais, non, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. C'est comme dire agent, agente. Il y a des trucs à rectifier, mais c'est dans l'esprit commun que on parle comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on est d'accord évidemment avec l'expression. Je suis totalement d'accord.
T'étais une petite fille qui grimpait aux arbres et qui était casse-cou et qui.
C'est ça.
Tu vivais à la campagne, c'est ça, la nature?
La nature. À Cerbonne, dans Lyon.
Ok.
Mais je n'ai pas les dates exactes, je suis très mauvaise niveau date, mais je suis née à Courbevoie dans le 92, et après on est parti vivre à Cerbonne, dans Lyon du coup, dans une maison, avec des champs de tournesol géants en face, oui. Et une voisine qui avait des fraises, et je lui volais des fraises. Une fois, je me suis empalée sur un grillage.
Bon, quoi?
Bah, avec
empalé,
mon frère,
c'est beaucoup quand même.
Ouais, c'était vraiment ça. Hein. Mais après, ça m'a pas non plus empalé, mais j'ai eu deux petites cicatrices sur le ventre qui sont légères maintenant parce que c'est vieux. Et on volait des fraises. Désolée si t'es là, je suis désolée. Et une fois, mon frère, en fait, il m'a poussé et j'ai glissé de l'autre côté, mais j'ai quand même récupéré les fraises.
C'est ton petit frère?
Mon grand frère.
Ton grand frère.
Il a 3 ans de plus que moi.
Il te boulie un peu quand il...
Ah ouais, c'était
relou avec toi.
C'était dur. Mais bon, j'imagine que moi aussi. Hein. C'est donnant-donnant. Mais lui, il me donnait beaucoup plus fort, quoi.
Ah.
Bah, ouais.
Il faisait quoi, ton père, comme métier pour être aussi... T'as dit maniaque?
Maniaque
ou... Ouais, t'as dit maniaque.
Le pauvre. Non, mais...
Je sais pas.
Il aime bien quand c'est bien rangé, quoi. Hein, mais après...
C'est pas un jugement de valeur, en plus, hein, pour moi. Quand
ouais.
Tu dis maniaque, il est plutôt à côté, t'aimes bien que ce soit rangé, quoi.
Ouais,
je l'entends comme ça.
Ouais, mais c'est un peu genre, ouais, fermez la porte. Enfin, des petits trucs qui peuvent être pour quelqu'un qui n'y prête pas attention, un peu excessif.
Ok.
J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast.
Bah, peut-être aussi, tu peux lui envoyer. il fait quoi comme métier ou il faisait quoi comme
il
métier?
Il a toujours. En premier, il était coiffeur.
Ok.
Et puis un jour, il a coiffé une fille qui était la fille d'un patron de la boîte ICAD. C'est un promoteur.
Ok.
Et elle lui a proposé de travailler là-bas. Et du coup, il est devenu agent immobilier. Et là, il a fait sa boîte il y a quelques années. Je sais pas, il y a 4-5 ans. Je suis vraiment nulle en année. Hein. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais là, il a fait sa... C'est une boîte de commercialisation. Donc toujours dans l'immobilier. Mais cette fois, c'est lui qui vend les biens des promoteurs.
Ok.
Donc en vente état futur d'achèvement, VEFA. J'ai fait un petit peu de BTS immobilier, oui.
Ah oui, t'as fait un peu de... On va en reparler. Et ta mère, elle faisait quoi comme métier ou elle fait quoi?
Elle était plus jeune, elle était chanteuse. Ah. Elle a travaillé dans une banque aussi.
Rien à voir.
Et après, quand elle nous a eu, elle a arrêté de travailler. Donc le cliché de la femme
la
au
mère
foyer,
au foyer.
La mère au foyer, ouais.
Ok.
Ouais, les termes, attention.
Les termes. Et ça t'a plu d'avoir ta maman à la maison?
Ouais, c'était ça va.
Ok.
Ça va, ouais, c'était... Bah,
rien de plus, quoi.
Ouais.
Comment ça se passait à l'école pour toi?
Bah, avant mes 10 ans, j'étais hyper studieuse. Bah, comme je t'ai dit, j'étais très rangée, organisée, et ça se passait très bien. J'avais un côté un peu artistique, je dessinais bien, apparemment. J'ai retrouvé des petites cartes que j'écrivais et des petits dessins que je faisais, qui étaient plutôt pas mal pour mon âge. Et par contre, j'étais nulle en maths et ça n'a jamais changé.
Ok. Le lycée, ça s'est passé comment? Collège, lycée, ça s'est passé comment?
Attends, mais même, est-ce qu'il y a des maths avant 10 ans? Oui.
Je crois, ouais.
En tout cas, tout ce qui était.
T'apprends les tables de multiplication et tout, quoi.
Oh là là, ça, c'était une terreur pour moi.
Ah ouais?
Ah oui, traumatisme.
Mais pourquoi?
Parce que j'ai eu des profs qui ont été trop colériques là-dessus, à se tromper. C'était.
Ah.
Ouais.
C'était en plus à apprendre par cœur un peu les tables et tout.
Ouais, c'est ça. Même avec. Mais après, j'ai pas envie de. On coupera si jamais, oui. Mais tu m'as dit, mais c'était surtout avec mon père qui voulait me les apprendre, il était trop dur avec moi. Ah. J'avais peur de donner la réponse tellement, il me stressait là-dessus.
Il fallait que tu réussisses.
Même si
ça.
J'avais la réponse, je la donnais pas parce que j'avais peur de me planter, quoi. Je me souviens des heures devant un tableau avec une craie, j'ai des souvenirs terribles. Du coup, même aujourd'hui, quand tu me demandes des tout petits calculs, pas hyper compliqués, j'ai même pas envie de commencer à réfléchir alors que je sais le faire. Mais je sais pas, c'est mon cerveau qui se bloque.
Traumatisé quoi?
Ouais.
3 x 4?
Ah non, c'est bon. Je veux pas.
Pardon.
Vraiment. C'est... Ah, tu vois, ça m'a mis une pointe au cœur.
Ah, pardon.
Je suis pas bien. C'est bon.
T'as laissé passer, c'est ça? T'as évacué?
Ouais, j'ai évacué l'information.
J'ai observé et puis j'ai dit, ok, finalement, je veux pas.
Je l'ai la réponse, mais je la donnerai pas.
Ah bon?
Ouais.
Bah, si tu l'as,
non,
vas-y,
je la donnerai pas, ça m'a traumatisé.
Non, mais au contraire.
Non.
Faut...
Ok, je la donne. 87?
Ouais, exactement. T'as gagné. Bien joué. Comment ça se passe le collège pour toi? Collège-lycée?
Alors, le collège... Le collège, 6e, Molière, j'avais pris des... Premier souvenir, c'est j'avais acheté des Doc Martens pendant un voyage scolaire à Londres. Et deux filles dont je tairai le nom, Jenna et Julia, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est la meuf, n'était pas du tout les noms.
Son prénom.
C'était moqué de moi.
Parce alors que t'avais des Doc Martens.
Ouais, je me souviens, c'était le jour où j'ai créé mon premier rap. Elles
quoi
sont venues dans la cour de récréation et elles ont vu mes Doc Martens parce qu'elles étaient bleu turquoise.
Trop bien.
Bah ouais, je trouve aussi.
Canon.
Mais bon, à l'époque, la différence faisait peur apparemment.
Bah oui.
Et elles se sont moquées de moi alors que j'étais trop fière de mes petites chaussures.
Londonienne en plus.
Ouais, c'est classe. Ça. Franchement, j'étais super contente de les avoir choisies. Et j'étais en train d'écrire mon rap que je vais vous faire tout de suite. Petit frère, fais tes bagages et dégage, t'as pas l'âge pour être dans les parages, va faire un pèlerinage alors que j'ai la rage et que je te foute en cage. Ouais, 6e.
Mais quel flow.
Merci. Donc j'étais en train d'écrire ce petit rap et ce jour-là, je m'en souviens, ça m'a marqué du coup. Elle s'était moquée de mes petites chaussures. Et j'ai rien dit.
Ah bon?
Bah ouais, franchement, j'étais un peu... Ouais.
Tu lui as pas fait un rap?
Non,
tu lui
non,
as pas
non.
fait un battle à
j'ai
la
J'ai rien dit et je me suis sentie mal toute la journée. Comme quoi, il faut le dire quand on...
Très important.
Ouais, si on dit rien, après, c'est terrible.
Ça fait une boule au ventre et
ouais,
tout, ça reste
ouais.
Dans la gorge ou dans la poitrine, ça dépend des gens, mais ouais, je suis d'accord
c'est
avec toi.
C'est ça. Donc, début collège, pas terrible, je te raconte ça, mais du coup, c'est pour te montrer un peu l'ambiance de ma 6e, pas ouf. Et après, plus j'avançais dans les années, mieux ça allait. Mais c'est vrai que si je reviens à mes années collège, en plus dans mon école actuelle, c'est des choses qui reviennent parce que dans ma formation, on travaille sur nous, il y a du développement personnel, on voit où est-ce qu'on a des blocages au niveau du jeu d'acteur et tout ça.
Tu fais une école d'acting.
Ouais, c'est ça, chez yes. Actor Factory. Et
excusez-moi.
Mais c'est très sympa la Vati Fanny Stern, c'est la meilleure coach de Paris, je le dis.
Ok, c'est et posé là, voilà.
Voilà. Du coup, dans cette formation, j'ai remarqué par exemple que le mot con me touchait plus qu'un autre. Alors que franchement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je sais prendre beaucoup de choses avec légèreté, tirer le positif du négatif. Mais c'est vrai que me faire insulter de con, c'est un truc qui me mettait particulièrement la boule dans la gorge ou qui pouvait m'empêcher de rester, on appelle ça comment ? Sans filtre, sans masque.
Ouais.
Tu vois, parce qu'on apprend dans mon école à pas mettre de masque et à être sincère, à parler avec de manière organique.
L'authenticité.
C'est ça, l'authenticité. Et du coup, j'ai creusé un petit peu. Et c'est vrai que dans mes années collège, donc début collège, j'ai toujours été un peu comme ça, à faire de l'humour un petit peu décalé, absurde, pas me prendre au sérieux, pas faire forcément attention à comment je vais être perçue auprès des autres. Et c'est vrai qu'à l'époque, du coup, il y a certaines personnes un peu mal intentionnées, mais c'était des jeunes en soi, tu vois, c'est des enfants, donc ils se rendent pas compte, qui faisaient passer cette rumeur sur moi comme quoi j'étais conne, alors que je me prenais juste pas au sérieux. Et je pense pas avoir été une vraie conne. Hein. Pour moi, personne n'est vraiment conne, en fait, ou con.
On est toujours le con de quelqu'un, si je puis me permettre déjà pour commencer.
Ouais, mais dans la vie de tous les jours, tu vois. Parce que tu peux délirer et puis tu peux aussi avoir gardé ton sérieux. Enfin, discuter premier degré et
tout à fait.
Voilà.
Oui.
Et c'est vrai que j'avais trouvé, enfin, ça m'avait beaucoup touché ça, parce qu'en fait, c'est des gens avec qui je m'étais du coup livrée, lâchée, où je me sentais en sécurité, qui m'ont derrière traité de cette manière. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, ça m'avait beaucoup marqué. Et aujourd'hui encore, je vois que ce mot résonne en moi et fait écho à mon passé du collège.
Ok. L'injustice.
Je sais pas si c'est de l'injustice, mais plutôt une sorte de trahison. Parce que tu t'ouvres aux autres et puis derrière tu te rends compte qu'en fait tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil.
Mais c'est dur, hein, c'est dur ça, de se rendre compte de ça.
Bah c'est les mais faut s'en rendre compte, mais pour autant pas se mettre des barrières et s'imaginer que le monde est horrible, parce que du coup ça veut dire qu'on se change totalement.
Ok.
Moi je suis passée par des phases où avec ce genre d'action des gens autour de moi, bah j'étais moins moi-même, mais derrière j'ai trouvé pas mon compte.
Bah oui.
Donc petit à petit, en évoluant doucement, je trouve un peu mon équilibre, le juste milieu. Peut-être aussi que quand j'étais plus jeune, j'abusais un peu trop de cet humour et j'étais pas assez sérieuse. Du coup, les gens réagissent comme n'importe qui aurait peut-être réagi.
Tu poussais un peu le
bouchon un peu trop loin, Maurice.
Le volume. Le bouchon un peu trop loin, vraiment, quel ref. Mais ouais, donc sixième, tu commences à avoir des... C'est un peu dur pour toi à ce moment-là.
Ouais, sixième, cinquième, quatrième, un peu limite. Puis après, troisième, et plus on avance dans le lycée, plus j'ai trouvé ma place, mon équilibre, des gens avec qui ça se passait bien. Et j'ai eu quand même des belles années aussi, fin collège et lycée, avec toujours ma bande d'amis que je côtoie toujours aujourd'hui, certaines personnes. Pas tant de choses à raconter sur ça, là, comme ça, il n'y a rien.
Tu t'es jamais arrêté de faire le zozo, malgré les regards des
non,
autres?
Non, par contre, je ne me suis jamais complètement transformée.
Okay.
Je me suis peut-être adaptée à certaines personnes, mais comme on l'aurait tous fait, j'imagine, rien de très... Non, mais après, je suis quand même globalement restée moi-même.
Ok, tu t'es restée vraie, quoi. Authentique.
Ouais, authentique.
Comment ça se passe ton bac et après ton bac? Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu fais quoi comme bac?
J'ai fait un bac littéraire.
Yes.
J'ai redoublé la quatrième. Peut-être une information importante finalement.
Bien sûr. Pourquoi? C'était dur cette année-là?
Bah, en fait, pour parler un peu des notes et tout, moi à partir de 10 ans, mes notes elles ont commencé à dégringoler un peu, mais j'ai toujours réussi à garder à peu près la moyenne 10, 11, 12, 13 pour passer sur les niveaux supérieurs. Mais il y a un moment où mon père s'est mis avec quelqu'un, qui est mon ancienne belle-mère, qui avait mis son fils dans une école privée. Et donc, je suis passée du public au privé. Et pour ce passage-là, en quatrième du public privé, je n'avais pas le niveau nécessaire pour passer. Et du coup, ils m'ont fait redoubler.
Ils t'ont relégué.
C'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup switché d'école parce qu'avec le divorce de mes parents, je suis allée à Trappes dans le 78. Enfin, Trappes, n'importe quoi. À côté, à Maurepas, dans le 78, un an avec ma mère et ma grand-mère quand ils ont divorcé. Ensuite, je suis revenue avec mon père, finalement, à 11 ans. J'étais à Molière. Dans le public, et après j'ai été dans un autre lycée privé, et c'est à ce moment-là que mon niveau, il avait déjà un peu baissé, mais là où ils m'ont fait doubler, et puis ensuite je suis retournée dans le public.
Okay.
Donc j'ai beaucoup switché parce qu'il y a eu beaucoup de déménagements.
C'était pas relou ça, quand t'es gamine, de pas
non,
de changer de bande de potes et tout?
Non, parce que j'ai toujours gardé contact avec des personnes de chaque endroit où j'ai été. Et puis j'aime bien la nouveauté, j'aime bien le renouveau. Au contraire, moi je prenais ça comme un nouveau souffle.
Ouais.
Je l'ai pas mal vécu de changer de collège, de lycée souvent. Par contre, je pense que mes notes en ont un peu pâti, c'est pas le mot.
Pâti.
En ont un peu pâti. Oh, c'est marrant ce mot. Pâti. Pâti, pâti.
Du verbe pâtir.
C'est ça.
Ok. Comment ça se passe post-bac? Tu fais quoi? Tu disais que tu avais fait un BTS immobilier, c'est ça?
Alors, après le...
Pour faire comme papa.
Après mon bac littéraire, donc que j'ai eu ric-rac, hein, comme toute ma scolarité quasiment après mes 10 ans. En fait, je travaillais pas beaucoup.
Tu t'amusais?
Je m'amusais, ouais. J'ai toujours cherché à plus m'amuser que de me faire souffrir. Et j'ai jamais compris le principe de souffrir pour arriver à quelque chose qu'on aimait faire. Donc, post-bac, j'ai fait mon bac littéraire, que j'ai eu ric-rac aussi, je crois, avec 12 de moyenne, quelque chose comme ça. Et pour moi, j'avais eu le bac, donc c'était fini. Je ne voulais plus jamais retourner sur les bancs de l'école parce que je n'aime pas le principe d'être assise et d'apprendre quelque chose que je n'ai pas forcément choisi directement. Donc, j'ai directement trouvé un travail. En fait, j'ai toujours travaillé. J'ai fait serveuse quand j'avais 16 ans. Après, j'ai fait barmaid pendant mes années lycée dès que j'ai été majeure parce que j'avais redoublé. Donc, à 18 ans, je pouvais être barmaid le week-end pendant mon lycée parce que je suis partie de chez moi à 16 ans aussi.
Ah bon?
Ouais.
Bah, tu dis ça comme si de rien n'était.
J'ai décidé de partir parce que je trouvais plus mon compte.
C'est pas anodin, quoi.
Ouais, c'est vrai. Je suis partie assez jeune de chez moi parce que il y avait eu pas mal de petits
d'embrouilles familiales.
Et je suis partie chez mon premier copain de l'époque.
Ah ouais, YOLO.
Et donc j'ai passé le bac quand j'étais avec lui chez lui, YOLO.
Ok.
Donc après le bac, j'ai décidé de travailler directement parce que déjà je me voyais pas continuer de faire des études. Pour moi, il fallait que je mette des sous de côté et c'était compliqué de faire des études vu que je parlais plus trop à mes parents. Donc j'ai fait vendeuse de trottinettes dans un magasin qui s'appelle Urban 360. Je réparais aussi les crevaisons de trottinettes. Je m'occupais un peu de la communication sur leur compte. J'ai fait des tutoriels de crevaison sur YouTube. Si vous tapez tutoriel crevaison Xiaomi 360, c'est une de mes vidéos qui est la plus likée. Hey, hey.
Des tutoriels pour crever, donc?
Ouais, crevaison. Oh, non, pas vraiment. Mais je pourrais en faire aujourd'hui des tutoriels.
Comment faire pour bien crever? Vous mettez du verre par terre, des clous.
Non, on répare. On répare ici. Et du coup, j'ai travaillé chez eux pendant un an. Avec Vincent et Anas, mes deux anciens patrons, avec qui je me suis trop bien entendue, avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à Vincent que je me suis lancée sur TikTok, mais bon, c'est un peu plus tard que c'est arrivé. Et en fait, quand je travaillais là-bas, j'aimais trop, mais j'aimais pas ce truc de je suis obligée d'être au bureau, enfin, dans la boutique de 10h à 20h. Tous les jours de la semaine et je sais pas, ça me nourrissait pas vraiment finalement. J'aimais bien le principe parce que c'est le début de rentrer un peu dans la vie active et j'avais l'impression d'avoir enfin ce statut d'adulte indépendant qui gagne sa vie, donc ça m'a apporté quelque chose de nouveau, mais je me suis rendu compte au fil du temps que ça me...
C'est des contraintes, quoi.
Bah ouais, c'est ça, puis ça me correspondait pas vraiment au final. J'étais bien entourée, mais le job en soi me plaisait pas forcément, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Et Anas, un de mes anciens patrons, il est toujours développeur web au départ, et il m'a un peu fait aimer le métier, aimer entre gros guillemets, mais je trouvais ça stylé en fait de le voir taper des lignes de code HTML, CSS, Python... JavaScript, enfin tout ça, quand je le voyais faire, j'étais un peu impressionnée. Je disais, ah, c'est cool, il a des bons skills. Et du coup, ça m'a donné un petit peu envie. Mais moi, je suis comme ça, dès que je vois un truc que j'aime bien, je le fais et puis j'abandonne très vite, rapidement.
Donc, est-ce que ça t'intéresse?
C'est
finalement, ça.
Ça
t'intéresse pas, non?
C'est ça, au final. Mais okay. Très vite, je crois que je suis très vite. Enfin, j'ai l'impression de pouvoir m'intéresser à plein de trucs, mais je réalise vite que.
Finalement,
je m'éparpille beaucoup. Du coup, il m'a donné l'envie de faire ça et je me suis inscrite dans une école. À l'époque, j'ai recommencé à parler un petit peu à ma famille et j'étais en capacité de m'inscrire dans cette école et de commencer cette formation qui était sur 3 ans. Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était pas viable et que j'y arriverais pas. Enfin, j'aurais pu y arriver, mais j'avais pas envie d'y arriver parce que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer ma vie derrière l'ordinateur.
Ok.
Donc j'ai arrêté. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que j'ai pas envie de redevenir vendeuse, j'avais déjà testé. J'ai pas envie de faire le web développement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai qu'à faire comme papa. Je vais faire de l'immobilier. Je trouvais toujours pas ma voie, en gros. Et je me suis lancée dans un BTS immobilier en alternance avec lui, qui s'est pas forcément bien passé, puisque travailler en famille, je crois que c'est connu, c'est vrai, je trouve, c'est un peu difficile.
Ça dépend, mais ouais.
En tout cas, pour ma part,
ça crée des contraintes en plus, quoi.
C'est un peu compliqué, je m'y retrouvais pas vraiment. Donc j'ai fait un an, pareil, j'ai validé mon année, histoire de, si jamais j'ai envie de recommencer, je pouvais reprendre. Et en fait, pendant cette année de BTS Immobilier, c'était le Covid. Je crois que c'était la deuxième année du Covid 2020. Pas sûr, mais enfin bon.
La première année du Covid, c'est 2020.
Ah bon, c'est pas 2019?
Alors non.
Ok, bon bah 2021.
Meuf, c'était 2000. C'est arrivé en 2010. C'est arrivé fin 2019 en fait, mais le temps que ça arrive dans le monde. Voilà, pardon okay. Pour cet aparté. Mais...
Petit aparté. Donc c'est pendant le confinement qu'en fait mon patron, qui à l'époque Vincent, qui quand je travaillais chez Urban, il me voyait en fait faire un peu des numéros aux clients, c'est-à-dire que à tout moment, je racontais ma vie. Je disais, ah, aujourd'hui, ça va pas du tout. Je me suis embrouillée avec mon frère. Il a dit que j'avais volé son pot de pesto, alors que pas du tout. Enfin, en fait, je parlais aux clients que je connaissais pas, comme si c'était mes amis. Et je leur racontais ma vie. Et lui, souvent, il me filmait en train de faire un peu n'importe quoi. J'avais des petits moments de folie dans la boutique. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu devrais vraiment pas travailler ici. Mais en même temps, c'était vraiment comme un deuxième papa pour moi. Donc, c'était avec beaucoup d'affection. Et il m'avait conseillé à l'époque. Il m'avait dit, pourquoi tu postes pas des vidéos sur Internet? Ça te correspondrait vachement plus. C'est lui qui m'a mis un peu la graine dans la tête qui a poussé, germé 2 ans après. Donc, pendant le confinement et que j'étais devant mon ordinateur en train de suivre mes cours d'immobilier, j'ai décidé ça s'est fait vraiment spontanément. J'ai commencé à faire des petites vidéos parce que je m'ennuyais. En fait, j'ai toujours fait des vidéos, mais j'ai commencé à en faire beaucoup plus régulièrement et j'ai surtout commencé à les poster sur TikTok. Et très rapidement, il y a eu des retours, des vues, des commentaires. Et c'est vrai que j'aimais bien ce côté où j'avais des retours sur ce que je créais et ce que j'imaginais. Ça me faisait plaisir. C'était des trucs super sympas. Enfin, ça m'a donné envie de continuer. Et puis après, tout s'est enchaîné assez rapidement. Quand j'ai vu que je pouvais commencer à gagner ma vie comme ça, que j'ai eu mes premières collaborations, je me suis dit, bah pourquoi est-ce que je m'inflige l'immobilier alors que ça me plaît pas? Je me lève le matin, je suis triste d'aller en cours. L'alternance avec mon père se passe pas très bien. Mmh. Donc je me suis dit, il y a un choix à faire.
Tu vas trop vite là, tu sais. Parce Pardon. Que en fait, pour moi, c'est quand tu commences à poster tes vidéos sur TikTok...
Ouais.
J'imagine que tu le fais un peu pour rigoler, en te disant ok bah ça peut être un peu marrant et
oui,
tout,
c'est
sympa.
Oui, c'est vrai, je suis passée un peu en surface là.
Mais t'inquiète, je suis là pour te récupérer. J'ai oui. vraiment vu partir. J'ai fait, là, reviens. Qu'est-ce qui se passe en toi en fait quand tu te rends compte que je sais pas en fait à quel point t'as grandi vite, tu vois, en termes de followers et tout, tu vois. Mm. Mais en fait, c'est quoi le moment de bascule où tu te dis oh, attends en fait en vrai ça marche bien, il y a des gens qui me suivent et tout. Parce que là, aujourd'hui, je l'ai pas encore dit, mais t'as au total plus de 2 millions de followers sur tous tes réseaux, quoi. C'est beaucoup.
Je suis nulle en maths.
T'as 1,6 million sur TikTok.
6, ouais.
Ce qui est beaucoup.
Ouais.
Et t'as genre 300 000 sur.
Mais sur TikTok, c'est plus simple d'avoir pas mal de followers, je trouve. On te suit plus pour ton contenu que pour ta personne.
Ok. D'accord.
Petit aparté. C'est pour ça que c'est plus difficile, selon moi, d'avoir des abonnés sur Instagram, parce que sur Insta, on te suit vraiment pour toi. Je trouve.
Okay.
Alors que sur TikTok, c'est plus pour ton contenu.
Okay.
Et puis sur TikTok, je trouve aussi qu'on a l'abonnement beaucoup plus facile. Ça fait moins carte d'identité. Dans le sens où Insta, pour moi, j'ai l'impression que les gens que tu suis, c'est un peu, ça te définit. Les gens font attention à suivre tel ou tel profil. Alors que sur TikTok, j'ai le sentiment que les gens, ils s'abonnent assez rapidement, quoi.
Ok. Et tu crois pas aussi qu'il y a un truc de découvrabilité, tu vois, où tu peux être découverte beaucoup plus facilement sur TikTok grâce à l'algorithme, parce que
ouais.
Alors que sur Insta, c'est une galère de
Absolument.
Se faire découvrir, en fait.
Ouais. Ouais.
On peut tomber sur toi de façon ultra random sur tes vidéos, grâce à l'algo, et en fait, que tu dis, comme tes vidéos sont cool et qu'elles sont marrantes, tu te dis, tiens, une meuf cool est marrante, je vais la faire.
Ouais, c'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça, ouais. Tu réfléchis moins à ton abonnement sur TikTok, je trouve, après peut-être que je me trompe, que sur Instagram.
Oui, mais bon, tu as beau dire, c'est quand même pas évident d'avoir 1,6 million abonnés sur TikTok. T'as taffé, quoi.
Bah, j'ai taffé en m'amusant. Et c'était vraiment pas à la sueur de mon front, parce que c'était vraiment que de l'éclate. Mmh. Et c'est pas pour dire, je sais pas comment dire, mais c'est surtout que je pense être arrivée au bon moment aussi sur la plateforme. Grâce au conseil de Vincent, mon ancien patron, et avoir apporté ma petite patte. Et je pense que c'est important d'avoir sa patte, quoi qu'on fasse, dans n'importe quel truc. Et du coup, ces deux trucs-là cumulés, d'avoir mon style, plus d'arriver au bon moment sur une plateforme qui est émergente, bah, du coup, ça a fait un bon mélange. Et ce qui fait aujourd'hui que j'ai pas mal d'abonnés sur TikTok.
Comment tu définirais ton contenu ?
Absurde, bordélique... pas instructif.
Arrête, c'est marrant.
Bah, quelques trucs sont marrants, mais je ne dirais jamais que toutes mes vidéos sont drôles. Hein. Je suis totalement consciente que je poste des trucs parfois où je réfléchis même pas. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça ma patte, c'est de poster sans réfléchir et que un jour je peux être une pseudo-journaliste, un autre jour je peux être une meuf qui fait des micro-trottoirs, un autre jour, en fait, je fais vraiment de tout parce que j'ai envie de tout tester.
J'ai pas vu sur ton compte, tu fais des micro-trottoirs comme.
Je l'ai fait une fois. Hein. J'ai pas aimé. Tu vois comme quoi? Ouais. J'ai des lubies, parfois je me lève un matin, je fais, ah, je vais faire ça, et puis après je le refais jamais, ou d'autres trucs que je vois que j'aime bien et qui plaisent, et ben je les refais. C'est comme j'ai eu plusieurs étapes dans mes vidéos TikTok. Il y a eu la voix que j'ai pris qui a bien marché. J'ai fait des répondeurs avec cette voix.
Tu peux la faire s'il te plaît?
Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander. C'est ça, à chaque fois je prends cette parce que j'avais des vidéos où je commençais tout le temps avec cette phrase. D'autres où je cassais ma porte pour introduire ma vidéo. D'autres où j'avais mes dents de sagesse et je faisais plein de vidéos avec mon visage hyper gonflé et j'étais sous médicaments, donc c'était assez en tout cas pour moi c'était marrant ça. Et voilà, enfin je fais plein de trucs différents et puis ça évolue quoi. Ça bouge avec le temps. J'ai l'impression de trouver de plus en plus ce qui me plaît. Alors qu'avant, on va dire que j'étais un peu à tâtons, à tester des trucs, à me dire ah, ça j'aime pas, ça j'aime bien.
Mais alors tu vois, pour revenir à ce moment où tu le fais un peu pour la blague, et que tu te rends compte que... C'est quoi le moment en fait où tu te rends compte que tu peux gagner ta croûte avec ça? J'imagine que, enfin, tu vois, tu le sais pas forcément avant.
Tu
connais personne dans le milieu là. Aujourd'hui, t'as une agente et tout là.
Mais pour te dire, je savais même pas. Genre, j'étais quand j'ai commencé à avoir 100 000 abonnés, j'ai eu peur parce que franchement, j'avais pas, je savais même pas. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient un peu connus sur Internet, qui étaient créateurs de contenu, enfin, influenceurs. Ou je regardais Squeezie à l'époque. Enfin, je les voyais.
Lucas, si tu nous écoutes.
Ouais.
Yep.
Genre, enfin, je les voyais. Je savais que c'était un métier. Mais j'avais pas idée qu'on pouvait vraiment bien gagner sa vie comme ça. Mais je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, on pouvait pas forcément très bien gagner sa vie avec ce métier.
Quand ça?
Au tout début, moi, quand je suis arrivée, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où les marques ont commencé à faire beaucoup de...
Vraiment, c'est vieux.
Ça existait déjà?
Ah, oui.
Ok. Bon.
Pour moi, YouTube, ça a commencé à vraiment être bien monétisé à partir de 2010, 2011, 2012.
Moi, j'avais pas du tout conscience de ça, en tout cas, quand j'ai commencé.
Il y avait pas TikTok à l'époque, tu vois. Il y avait pas TikTok, il y avait pas. Enfin, ou Insta, c'était pas du tout le même Insta, quoi, qu'aujourd'hui.
Ouais.
Mais donc, ouais, c'est.
J'ai voulu. C'était pour m'amuser et ça me faisait passer le temps pendant mes cours d'immobilier que j'aimais pas trop. Et je sais pas, je l'ai remarqué parce que j'ai vu que je commençais à avoir des petits mails de marques qui me proposaient des petits cachets contre de parler de leur marque, si j'aimais bien la marque évidemment. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut peut-être que je trouve quelqu'un qui s'y connaît. Donc j'ai eu un premier agent avec qui ça s'est passé moyennement parce que en fait, il n'était pas vraiment agent. C'est juste la seule personne qui me suivait et que je suivais qui avait, je crois, 20 000 abonnés.
Okay.
Donc je me suis dit, il doit connaître un peu le système. Il m'a montré des trucs assez cool. Ça s'était plutôt bien passé au début, mais au final, on n'avait pas les mêmes attentes. Je dirais que peut-être qu'il me promettait beaucoup de choses et il ne faisait pas... Ouais. Voilà, donc j'ai fini par arrêter au bout d'un mois, donc ça allait assez rapidement.
Ah oui, ok, c'est vraiment très
rapide. Surtout j'étais de moins
c'est
en moins
TikTok,
à l'aise.
C'est comme TikTok, ça zappe.
Ouais, c'est ça, exactement, c'est le principe. Mais il était pas méchant, juste ça collait pas avec ma manière de fonctionner. Donc à la suite de ça, Webedia m'a proposé d'aller chez eux, Studio File, deux agences. Et j'ai eu Marguerite au téléphone, et c'est vrai qu'en comparant les deux appels que j'ai eus, Webedia, quand je leur parlais, j'avais l'impression que c'était un peu du langage compliqué pour rien quand je posais des questions, alors que Marguerite, elle m'a toujours répondu
normal,
de manière à ce que je comprenne. Et elle m'a quel terme tu utilisais de simplifier, de
vulgariser.
C'est ça. Marguerite a toujours vulgarisé pour moi, étant une grande peureuse de tout ce qui est administratif, finance, machin. Elle a toujours fait en sorte que je comprenne et que je me sente pas mise de côté ou pas comprise. Et du coup, je l'ai suivie aveuglément jusqu'à aujourd'hui.
Ok. Et comment t'arrives à... déjà, j'imagine que tu lui fais confiance de ouf.
Ouais.
Vous avez l'air d'être copine comme cochon. Elle est très régulièrement dans tes stories.
Ouais, mais elle me menace quotidiennement.
Elle est
Elle me dit que si je rapporte pas assez d'argent, elle va publier des photos de moi nue.
C'est
C'est limite.
En fait, c'est marrant parce que vous êtes deux meufs, quoi, si tu veux. Mais ça, ça marcherait pas. Il y a un double standard qui marche pas là, à ce moment-là.
Ouais.
Mais ouais, donc vous vous entendez super bien, vous avez à peu près le même âge. Mais en fait, le truc aussi, c'est que comment t'as fait, toi, pour garder cette liberté qui m'a l'air d'être très important pour toi, quand t'as commencé à avoir des contrats avec des marques et tout?
Bah, je pense que c'est un travail d'équipe. Mmh. On s'est toutes les deux comprises. Elle, elle avait déjà son expérience et sa manière de travailler. Et elle m'a transmis sa manière de bosser qui me convenait. Donc, je me suis toujours sentie libre dans ce que je postais. Souvent, d'ailleurs, il y a des gens qui me demandent « Oh tiens, est-ce que ton agence, elle t'oblige à poster tant de contenu par jour, par semaine, machin ?» Bah, c'est, pour moi, c'est faux, ça. Enfin, pour moi, c'est une rumeur parce que je ne l'ai jamais vécu. J'imagine que ça a dû arriver.
Oui, il y a des agences qui fonctionnent comme ça, forcément.
Franchement, si on m'avait fait vivre ça, même si j'y connais rien, je pense que j'ai un radar quand même à truc limite.
Et
c'est hyper limite. Enfin, c'est des trucs, je pense que moi, ça m'aurait tout de suite choqué.
Mais tu sais que c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que si tu postes pas en tant qu'influenceur, entre guillemets, en fait, l'algorithme, il t'oublie très vite. Donc, il y a un peu cette pression aussi que les agences sont obligées de mettre sur leurs créateurs.
Je suis pas d'accord parce que bah, je l'ai vécu de plus poster pendant un temps. Donc j'ai vécu le truc où du coup on me mettait un peu moins en avant. Mais je trouve que c'est pas vrai dans le sens où si t'as quand même des trucs intéressants à partager, ça finit par revenir. C'est comme tout. Ça fait des vagues. Hein. Parfois moi je fais beaucoup de vues, parfois j'en fais pas beaucoup. Au tout début, quand j'ai eu ma montée, parce que j'ai eu pas mal d'abonnés assez vite au début, bah, trop cool, waouh, ça marche, génial, les gens ils aiment bien ce que je fais. Puis il y a eu un moment où ça s'est stabilisé, voire peut-être même baissé à d'autres périodes. Et la première fois que ça t'arrive, ça, tu te remets beaucoup en question, tu te dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce que d'un coup ça marche plus. Et en fait, maintenant avec le recul, j'ai pas tant de recul que ça, je crois que ça fait 3 ans que j'y suis, j'ai compris que c'était totalement normal. La créativité, ça fait des hauts et des bas, c'est bien connu, mais entre connaître cette phrase et l'assimiler, la comprendre, il y a une différence.
La théorie et la pratique.
C'est ça, j'ai mis un petit temps avant de le comprendre. Donc au tout début, j'ai eu des petites périodes où je me remettais beaucoup en question, où j'étais pas super bien dans mes baskets. Je me disais, ah, peut-être qu'en fait, c'était juste comme ça, ça a marché une fois, puis c'est fini. Et c'est vrai que ça faisait un peu chier parce que je me disais, merde, je m'y plaisais bien et tout. Et puis au final, tu te rends compte que ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, ça rebaisse. Et c'est normal. Donc si tu postes pas pendant une semaine parce que t'es pas très bien ou que t'as pas d'idées, bah, c'est pas grave, tu reviendras avec d'autres idées plus tard. Il faut pas se foutre la pression pour moi. Parce que si tu te mets la pression, en tout cas dans mon cas, je sais que si je me mets la pression, bah, je profite plus, je kiffe plus et je fais pas des trucs qui me plaisent. Donc bah, forcément, le contenu est pas ouf derrière.
Comment t'en es venue à vouloir t'inscrire dans cette fameuse école d'acteur?
C'était l'année dernière. On m'a proposé de faire un petit rendez-vous avec c'est les deux fondateurs.
T'es là pour animer le compte du festival,
oui.
C'est ça?
L'année dernière, on m'a proposé de faire ça parce que Marguerite savait que j'avais un attrait pour le cinéma. C'est quelque chose qui m'attire. Quand j'étais petite, au tout départ, je voulais être comédienne. Ah. Quand j'étais toute petite, mais mon père m'a écarté de ce chemin en me disant que c'était pas quelque chose de sûr. Donc c'est pour ça que j'ai fini par essayer d'être vendeuse de trottinettes, essayer d'être dans l'immobilier ou le développement web, parce qu'en fait...
Ça, c'est des vrais métiers, ça.
Bah ouais, c'est ce que mon père me disait.
Bah oui. Peut-on lui en vouloir en même temps?
Non, chacun ses convictions.
Il avait peur pour toi.
Oui, c'est ça. Je le comprends très bien avec le recul et j'en ai jamais voulu parce que ça m'a permis de justement passer par le chemin que j'ai pris. Donc c'est plus un mal pour un bien. Une période où je me cherche mais qui au final a servi. Du coup, je me suis occupée des réseaux du Festival d'Alpe d'Huez l'année dernière. J'ai fait plein de vidéos avec plein de comédiens sur place. C'était vraiment une trop bonne expérience que j'ai revécue cette année d'ailleurs. Mais pas de la même manière. J'étais invitée par une marque cette fois, donc je m'occupais pas des réseaux, donc j'ai beaucoup plus profité.
Oui.
Alors que la première fois, franchement, j'étais en stress. Je suis arrivée
pour bosser.
Je bossais et puis c'est assez impressionnant de se retrouver avec des acteurs, de devoir trouver des contenus à faire avec eux. Au départ, je suis arrivée les mains dans les poches. Je me suis dit, de toute façon, moi, je fais que des trucs spontanés. Mais je me suis vite rendu compte qu'avec des gens qui étaient connus, qui pouvaient potentiellement t'impressionner, où tu pouvais être pas forcément hyper à l'aise en fonction de la situation, il fallait avoir des petites cartes dans sa poche. Donc, le soir même où je suis arrivée, je me suis enfermée dans ma chambre d'hôtel jusqu'à 2h du matin à écrire plein d'idées pour pouvoir en proposer plein. Et du coup, ça s'est trop bien passé. Okay. J'ai fait plein de contenu.
Donc, t'es aussi capable de ne pas faire que du spontané.
Oui, finalement, voilà. Oui. C'est juste que mon côté un peu flemmard m'écarte de ce chemin qui, finalement, est beaucoup plus nourrissant. À la fin de ce...
Leçon de vie.
À la fin de ce festival, c'est Alexandra Chamis de chez AS Talent qui m'a, c'est une agent qui m'a proposé de rentrer dans l'agence parce qu'elle a vu mes contenus et que les fondateurs du festival lui ont parlé de moi et elle a bien aimé ce que je faisais. Donc elle m'a proposé ça et moi quand elle est venue me proposer ça à la fin du festival, j'avais des étoiles dans les yeux parce que ça faisait écho à ce que je voulais faire quand j'étais petite fille. Mmh. Et on le sait, dans ce milieu, le cinéma, être acteur, c'est hyper difficile. Rentrer en agence, t'as beau être bourré de talent, faire plein de trucs, tu peux galérer et c'est un milieu qui est vraiment dur quoi, mentalement et difficile d'accès. Et quand j'ai cet agent qui est une super agent assez impressionnante, enfin moi quand je l'ai vu me proposer ça, j'étais vraiment ça a fait écho à la petite fille qui voulait être comédienne quoi, où j'étais en mode waouh, qu'est-ce qui se passe en fait, moi j'ai juste fait des petites vidéos dans ma chambre et finalement ça m'amène à faire ce que j'avais envie de faire petite.
C'est génial.
Et donc quand j'ai réalisé la chance que j'ai eue qu'elle me propose ça, bah je me suis assez vite décidée à mettre toutes les chances de mon côté en m'inscrivant dans une école. Je savais pas trop laquelle faire, mais j'ai choisi l'Actor Factory parce que j'ai passé un casting avec un réalisateur qui m'a dit que tous les acteurs qui venaient de chez Actor Factory jouaient bien.
Ok.
Donc je me suis dit bon. Du coup, voilà, je me suis inscrite dans l'école pour mettre toutes les chances de mon côté et surtout faire ce qui me plaît, quoi, parce que je sais que jouer, c'est un des trucs qui m'amuse le plus. Finalement, quand je fais mes vidéos, je joue un petit peu un personnage, même si c'est tiré de ma personnalité et que dans certains moments de la vie de tous les jours, je peux très bien être comme ça c'est une sorte de c'est un peu comme si je poussais un peu les traits de ma personnalité, c'est quand même jouer au final. Et je sais que voilà, je sais pas où je veux en venir comme d'hab.
Non mais alors j'allais rebondir, qu'est-ce que ça t'a appris cette école, parce que j'ai l'impression que ça t'a appris plein de trucs.
Grave. Bah franchement ça m'a, je sais pas, je trouve que ça ouvre le champ des possibilités de comment est-ce qu'on peut voir la vie
à ce point.
Ouais, comment rebondir, comment se comporter. Bah après la philosophie de vie, j'ai toujours la mienne depuis longtemps, mais elle évolue avec le temps. Mais je trouve que c'est agréable d'avoir une formation qui te conforte dans l'idée que bah t'es sur le bon chemin dans tes prises de décision, d'apprendre à se connaître. Ça c'est fou, tu vois, parce que je sais qu'avant de m'inscrire dans l'école, bon, il y avait ce côté où j'étais rentrée en agence de cinéma, mais il y avait aussi le côté où j'avais envie d'apprendre à me connaître et de me développer personnellement parce que je suis passée par des phases où j'étais pas très bien. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux pour aller mieux que de se connaître, pour savoir comment est-ce que je déclenche tel ou tel, enfin, comment est-ce que je fais pour me sortir de situations où je me sens pas bien, ou, enfin, me connaître pour savoir ce qu'en fait je peux faire et ne pas faire pour être bien et droite dans mes baskets.
Ok.
En gros.
C'est cool.
Ouais.
Tu m'as parlé que tu voulais être cascadeuse.
Ouais, j'aimerais bien. Mais avec Combini, on a été explorer une école de cascade. Ça m'a donné grave envie, mais je pense pas que je serais assez assidue pour faire le voyage jusqu'à là-bas et faire toute la formation.
Ok.
Campus Univers Cascade.
Ah oui. Campus Univers Cascade.
Mais Marguerite, elle te sert de Google aussi, c'est ça?
Ouais, de ouf, franchement.
Elle te sert de deuxième cerveau, c'est
ouais.
Vraiment...
C'est parce que, ouais, parce que je pense à tellement de trucs en même temps.
Elle est corvéable à merci, Marguerite.
J'ai des petits problèmes de concentration, du coup, ça peut m'aider, quoi.
Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu devenir cascadeuse?
Bah, c'est un grand mot. Je pense que je suis un peu casse-cou depuis petite et j'aime bien l'adrénaline. Donc j'aime bien l'idée, j'aime bien le mot, j'aime bien l'ambiance, mais je sais que je veux pas faire ça tout le temps quoi.
OK. Comment tu vis toi? J'imagine qu'avec 2 millions d'abonnés là, les gens te reconnaissent. Dans la rue, comment ça se passe? Tu balades
arrive.
Dans Paris? C'est pas quotidien?
Non, franchement, c'est pas okay. quotidien.
OK, OK.
Et quand ça arrive, c'est toujours super cool. J'ai l'impression d'avoir une communauté hyper respectueuse, okay. cool. Ça fait trop plaisir. En fait, j'ai l'impression juste de rencontrer... en fait, ça fait plaisir parce que ça rend vrai. Mais c'est comme pour eux, je pense. Moi, je suis dans un écran. Du coup, quand ils me voient dans la vraie vie, c'est marrant parce que pour moi, enfin pour eux, j'étais juste un écran. Oui. Et moi, pour moi, au départ, c'était juste des commentaires. Mmh. Et de les voir dans la vraie vie, bah ça fait plaisir. Ça rend le truc encore plus vrai. Et puis souvent, je tombe sur des gens qui sont trop cool. Sauf une fois, devant un restaurant de raclette, il y a une fille qui était un petit peu alcoolisée qui m'a plaqué contre le mur. Elle m'a dit mais je t'aime.
Alors,
mais en vrai, c'était.
Attention à l'amour. C'était
fait de manière très chou et elle avait un peu bu. Et au début, j'ai eu peur. Franchement, je pensais que j'allais me faire agresser. Et après, j'ai compris que c'était de l'amour un petit peu tactile, mais c'était très mignon. C'est au final. Enfin, ça m'a pas traumatisée du tout.
Oui.
Et la plupart du temps, à chaque fois, c'est fait de manière hyper respectueuse. Les gens sont pas du tout intrusifs. Ça fait plaisir, juste, en fait. Okay. Je le vis pas du tout mal, ça, pour le coup. Au contraire. C'est cool, quoi. Enfin, ouais. C'est voir des gens qui... Ou même quand les gens me disent « Ah, ça me remonte le moral, ces vidéos et tout. » Moi, j'ai même pas conscience vraiment d'avoir cet effet-là sur certaines personnes. Mais ça fait trop plaisir de voir que ça peut avoir un effet comme ça positif sur les gens.
T'as pas encore les côtés négatifs d'une trop grande popularité, tu
sais. Ouais, je sais. C'est pour ça. Moi, je suis bien comme ça. J'ai pas forcément envie d'avoir plus d'abonnés.
Ok.
C'est pas le but de mon parcours sur les réseaux sociaux.
Ok.
C'est pour ça que je poste à 2h du matin, c'est pour ça que je poste tout et n'importe quoi, parce que je suis pas là à chercher vraiment à faire grossir ma communauté. Si ça vient, bah je laisserai comme ça, mais c'est vrai que je suis totalement consciente que plus t'as des abonnés, plus y a aussi la partie haters, comme on les appelle, et j'ai la chance aujourd'hui de pas en avoir beaucoup, franchement. Je reçois très très peu de messages malveillants ou d'insultes ou de commentaires pas constructifs. Après, il y a des trucs qui peuvent plus ou moins toucher, et encore, j'ai tellement de recul sur ça que au quotidien, ça ne m'affecte pas du tout.
Okay.
Si je vois des commentaires qui sont un petit peu désobligeants, je peux très bien le comprendre parce qu'on peut pas plaire à tout le monde.
Donc, tu vis ça de façon très, très tranquille, quoi.
Sincèrement,
tu
oui.
Tu le prends pas personnellement, quoi.
Ouais. Puis j'ai une facilité à zapper très vite ce qui me plaît pas. Donc si je lis 5 commentaires et qu'il y en a 2 qui sont méchants, je vais retenir juste les 3 positifs.
Mmh. Ok. T'as sorti ton premier court-métrage, là, il y a pas très longtemps.
Swipe. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, ok, je vais essayer de produire un truc autrement que juste dans ma chambre, et même si j'imagine que c'était fait avec des petits moyens, mais c'est construit, il y a des champs, il y a des contre-champs, il y a de la réale, quoi, derrière.
Ouais. Pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, j'aime beaucoup le spontané, c'est ce que j'ai toujours fait parce que c'est ce que je savais faire de manière spontanée, justement, au départ. Mais à un moment donné, j'ai senti que ça me nourrissait pas assez de faire que du spontané et que j'avais envie de développer un petit peu parce qu'avec un peu de travail, finalement, on peut fournir des choses peut-être encore plus agréables à regarder et encore mieux faire passer les messages. Et c'est vrai que en m'inscrivant dans une école, en continuant à côté les réseaux sociaux, donc en cumulant ces deux activités, petit à petit, je vois que je tire vers plus la réalisation. En fait, ce que je fais avec mes petits moyens de vidéos spontanées, c'est un peu de la mini-réal, mais j'avais envie de la développer et de tester, de voir ce que ça pourrait donner si je me donnais les moyens de faire quelque chose de plus produit. Donc, et surtout, j'avais envie que ma première réalisation, ça soit un sujet qui me parle, qui me touche. Et l'addiction aux réseaux sociaux, c'est un truc qui me touche et qui m'a parlé parce que je me suis beaucoup renseignée dessus, étant donné qu'à une période, je trouve que j'avais perdu beaucoup en créativité parce que je scrollais trop, parce que je perdais beaucoup de temps sur les écrans. Et je me suis dit, moi, c'est mon métier, donc ça va encore, les pots cassés. Enfin, je veux dire, il y a moins de pots cassés, on va dire, que quelqu'un dont c'est pas le métier, qui va se perdre là-dessus, qui en plus peut-être fait un métier qui lui plaît pas vraiment, et qui le soir son seul réconfort c'est de faire ça au lieu de sortir, profiter de ses amis, lire ou enfin faire des choses qui sont ce que j'appelle de la dopamine lente.
Ouais.
C'est-à-dire que au départ c'est peut-être un peu chiant, comme le sport au final c'est peut-être un peu chiant de le faire, mais derrière la récompense c'est beaucoup plus grosse. Et quand j'ai compris que de scroller, swiper, bah déjà c'était vraiment une drogue. Je me suis renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos, les vidéos de Léo Duff par exemple, elles sont hyper intéressantes là-dessus. Il t'explique que TikTok, c'est que ça a clairement été fait comme, enfin ils ont analysé le cerveau humain avec, ils ont fait des expériences sur des rats, si je ne me trompe pas, qui appuient sur des boutons et limite ils préfèrent appuyer sur le bouton de dopamine plutôt que d'aller manger.
Bien sûr.
Enfin, je me suis rendu compte de l'ampleur que ça pouvait prendre et de ce que ça faisait comme effet sur le cerveau. Ou dans le sens où moi-même, ça m'a rendu... je sais pas comment dire. J'ai perdu un peu de ma joie quoi, au quotidien. J'étais devenue un petit peu négative, alors que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt positive. Même dans le négatif, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Et quand j'ai compris que ça pouvait atteindre autant et que je faisais partie de ce...
c'est ce que j'allais te demander.
Cet engrenage qui pouvait faire en sorte que les gens aillent mal... Bah, je me suis dit, pourquoi pas faire un contenu là-dessus. Et vu que je me suis beaucoup renseignée dessus, j'ai regardé des vidéos, j'ai commencé un livre que j'ai pas terminé. J'ai commencé... Bref, c'est un truc qui m'a marquée. Et quand j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête de scroller, ce que j'ai fait, je le fais, mais vraiment rarement maintenant. Je me donnais l'excuse pour scroller en me disant « Ouais, mais il faut bien que je regarde s'il y a des petites tendances, parce que de temps en temps, je fais un peu de trend, machin. »
Pour les gens qui ne savent pas, mais en gros, les tendances, c'est les trucs, c'est les vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok et qui sont des thèmes, en fait, c'est
ouais,
ça. Et
c'est
donc,
ça.
L'idée, après, c'est tu viens sur cette tendance-là pour réussir à faire des vidéos sur la tendance. Et
voilà.
Donc, tu te fais connaître encore plus, quoi.
C'est ça. Et moi, quand je n'avais pas d'inspiration et que je voulais quand même poster pour les gens qui me suivent, bah, je sais que j'avais pour habitude de faire quelques trends. Ça m'arrive encore aujourd'hui de temps en temps, mais beaucoup moins souvent. Parce qu'en fait, j'ai compris que ce n'est pas en regardant le contenu des autres que j'allais réussir à produire plus de vidéos. Mais bien au contraire, en arrêtant de regarder ce que les autres faisaient, au moins je me concentrais sur vraiment ce qui moi me plaisait et ce que j'avais envie de partager. Et quand j'ai capté ça, j'ai eu envie de faire une vidéo sur le sujet parce que ça a changé pas mal de trucs, pas mal de choses dans ma vie, vu que j'ai vécu un an à scroller, pas mal. Et j'ai vu l'effet sur mon cerveau, j'ai vu l'effet sur moi, comment ça m'avait changé. Et donc je trouvais intéressant de partager la vision que j'avais du téléphone.
Je sais pas si t'as vu ce documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière vos écrans de fumée, je crois.
Je crois que je l'ai survolé, mais on m'en a parlé.
T'as survolé un documentaire Netflix.
Je l'ai mis en accéléré.
T'as regardé en quoi?
Je l'ai mis en accéléré.
Ah oh, putain, les zoomers, j'en peux plus. Si vous écoutez ce podcast en x4, bonjour à tous. C'est sans doute ça qui va se passer. Ok. Putain, t'as survolé. Oui, tu regardes les vidéos en accéléré, c'est ça?
Pas toutes.
Ok.
Quelques-unes.
Mais même les films Netflix et tout, tu les regardes en accéléré?
Non, les films, j'ai du mal, mais là, je suis en train de regarder Hunter x Hunter.
Ouais,
et j'avoue...
Qui est un animé, c'est ça?
Ouais, je le regarde un peu en accéléré, j'avoue. C'est mal.
Mais non, c'est juste, c'est très marrant. Moi, le jour où j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça qui permettait d'accélérer sur Netflix, parce que ça existe sur YouTube depuis des plombs, je me suis dit, ok, sur Netflix quand même...
Les films, je peux pas. Mais par contre, tout ce qui est documentaire ou manga et tout, je trouve que c'est pas forcément dérangeant.
Donc, tu regardes en quoi? 1,5?
Ouais.
Ok.
1,25. Ouais, ça dépend.
Ok. Moi, j'avoue, parfois, sur YouTube, je regarde en 1,25, 1,5, ça, en fonction de la façon dont les gens...
Je te juge pas.
Non, moi non plus. Mais pour le coup, le documentaire derrière nos écrans de fumée, je trouve qu'il mérite d'être vu, de prendre le temps, justement. Mais bon.
J'entends.
Si vous l'avez jamais vu, je vous invite vraiment à aller regarder. C'est fou, ça. Ils ont réussi à réunir dans un seul documentaire le mec qui a créé le bouton « like » sur Facebook, parce qu'en fait avant ça n'existait pas, vraiment en 2010 je crois, un truc comme ça, et qui dit « je suis désolé, en fait j'ai inventé vraiment le pire truc au monde », c'est-à-dire la validation quoi, exactement le like quoi.
On retrouve un peu le même principe aujourd'hui avec les intelligences artificielles et le mec qui dit qu'il est désolé et qu'il regrette d'avoir fait ça.
Le ponte qui a consacré toute sa vie à la création de l'intelligence artificielle et au développement, qui a quitté Google là, il y a quelques jours pour pouvoir dire « en fait, je suis désolé, je crois que si on fait pas très attention, l'intelligence artificielle va devenir un danger pour l'humanité.
Ouais. »
Là, ok, ils vont créer des robots tueurs. Il a vraiment dit ça. Hein. C'est chaud.
C'est effrayant.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Un bon anniversaire en retard.
Bah oui, ok. Effectivement, bon anniversaire en retard. C'est ton premier mai alors l'anniversaire.
Ouais.
Bravo.
J'ai un truc avec mon anniv en ce moment.
Le jour de la fête du travail. Tu sais, c'est le jour férié par excellence. Hein. C'est ouais. le jour où on ne travaille pas.
Bah c'est cool parce que du coup, je fais toujours mon anniversaire le dimanche soir et souvent, bah, je suis
bon
tranquille.
Soir, tout à fait. C'est pas forcément...
Pas forcément.
C'est pas forcément un lundi.
Pas forcément.
Ok.
Mais là, c'était un dimanche en tout cas.
Oui, j'ai compris.
Je crois que l'année dernière aussi. Hein.
Tu fais ton anniversaire la veille.
C'est ça.
Okay.
Donc à minuit pile, j'ai vraiment le truc de mon anniv, quoi.
Ok. Mais à part ça, professionnellement
Bah on peut me souhaiter de réussir à écrire plus souvent, de me structurer un petit peu plus pour réaliser des projets qui me tiennent à cœur.
T'as du mal à ça, à te poser, comme tu disais tout à l'heure
Bah, il suffit de trouver les bonnes personnes. Je pense que là, c'est en train de se faire. J'ai différents projets qu'on est en train d'écrire... avec Camille Landru et Stéban Vial qui font de la fiction sur Instagram, mmh. que j'aime beaucoup. Et je les ai découverts il y a peu de temps, j'ai commencé à tourner un peu avec eux, on a fait des vidéos qui ont pas mal marché et que j'ai adoré faire. Et donc là, on est en train d'écrire un nouveau projet ensemble pour ma chaîne cette fois. Et
ils t'apprennent un peu à te structurer, c'est ça, structurer
ouais,
ta pensée,
ça.
Ton travail.
Ouais, c'est ça. En fait, cool. il m'apprend des trucs tout bêtes. Par exemple, moi, dans l'écriture, ce qui me faisait un peu peur, c'est que je me disais, bah, je trouve pas forcément toujours la chute. Moi, la chute, elle vient spontanément quand je tourne la vidéo. Parfois, j'ai un truc pouf qui me vient et ça fait l'affaire. Et je me creuse jamais trop la tête. Je laisse passer ce qui vient. Mmh. Mais lui, il m'a dit, en fait, t'es pas obligé de savoir écrire. La chute de ta vidéo, mais tu peux très bien faire une petite satire, avoir un clown blanc et un Auguste. Tu vois, il m'apprend des trucs tout bêtes où je me dis en fait, bah ouais, il a raison, pourquoi est-ce que je me limiterais alors que c'est à ma portée? Et en travaillant avec des gens qui ont un peu d'expérience, qui s'y connaissent, bah ça, c'est le principe d'apprendre en fait. Et petit à petit, je me dis que ça devrait être de plus en plus fluide et me donner envie de faire des projets plus nourrissants pour moi. T'es et pour les autres.
J'ai l'impression que tu es en train d'apprendre ton métier en même temps que tu le fais, quoi.
Ouais, c'est ça.
En t'entourant des bons gens.
Ouais, j'apprends sur
Marguerite.
Le tas. Exact.
Qui, elle, t'apprend le métier du côté business, j'imagine.
Ouais, en quelque sorte. Ouais. Je fais du bis-bis avec Marguerite.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel...
Pas du tout, dès qu'on parle business, je ferme mes oreilles.
C'est vrai, t'aimes pas?
Non, enfin, c'est pas que j'aime pas. Si, je me renseigne un petit peu, ça concerne ma société, ça me regarde, donc je pose des questions et
t'as
tout ça.
T'as une société et tout.
Ouais,
sérieux.
J'ai fait une petite société.
Serious business, hein.
Business is business. Mais c'est vrai que c'est un truc où j'ai tendance à pas mal me déconcentrer. Enfin, dès qu'on parle de finance ou quoi, c'est vrai que c'est des sujets qui me...
J'ai un super podcast, tu sais, sur l'argent.
Oh là là.
Qui s'appelle
non.
Histoire d'argent.
Je veux pas.
Bah justement, il faut regarder en face.
Non.
C'est pour ça, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es juste en train de faire « Non, ça n'existe pas !» Alors que c'est hyper important, l'argent.
Ouais, oui, mais...
C'est sale pour toi ?
Non, pas du tout, je dis pas ça. C'est juste que ça ne m'intéresse pas d'apprendre à... Enfin, je sais pas, je prends pas de plaisir à échanger là-dessus.
Oui, mais est-ce que... Enfin, l'argent en tant que tel, tu le fuis pas ? T'as pas de problème à en gagner ?
Je vais jamais sur mon appli bancaire. Mmh. Je regarde pas et j'ai déjà eu du mal à gagner des sous et j'étais souvent dans le rouge avant de commencer à être sur les réseaux sociaux. Mais là, avec les réseaux, ça va. Enfin, je sais que j'ai pas à m'inquiéter, mais enfin, du coup, je regarde plus trop quoi. Mais c'est vrai que je devrais regarder. J'ai eu pas mal de problèmes parce que j'ai eu du mal à trouver des bons comptables. Il y a eu beaucoup de gens qui ont un petit peu abusé de ma naïveté sur ce milieu-là. Et là, j'ai tout juste changé de comptable. C'est même pas encore bien rangé. Enfin, il y a plein de trucs à rectifier. Et c'est des trucs j'ai l'impression que dès que j'en parle, c'est une montagne.
Okay.
Et je préfère l'esquiver, la montagne, et attendre de voir si quelqu'un va m'aider un jour. On verra bien ce qui se passera. Ou peut-être qu'à l'aube de mes 26 ans, je changerai totalement et je prendrai tout ça en main, mais là j'ai vraiment pas envie quoi, même
pourquoi
d'en parler.
26 ans.
Bon, c'est comme pourquoi ça me laisse au moins 2 ans quoi.
Ok.
Je me laisse 2 ans avant de me secouer le cocotier.
Ok. Sinon tu peux écouter mon podcast qui s'appelle Histoire d'argent. T'écoutes le premier épisode avec ce mec qui s'appelle Christian Junot, c'est trop intéressant.
Je vais écouter ce podcast.
Ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est trop bien. Ça peut-être ça t'ouvre la tête. Oui. Parce qu'en vrai l'argent il est là tout le temps et c'est vraiment un sujet qui me passionne aujourd'hui parce que moi aussi, j'étais comme toi. C'est-à-dire que je le mettais le plus loin possible.
Mmh.
Parce que je partais du principe que tous les gens riches, c'était des salauds.
Mmh.
Ce qui n'est pas du tout le cas, en plus. Donc, c'est passionnant comme sujet.
Ok.
L'argent. Bon, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller découvrir ton travail sur Insta, sur TikTok. Tu fais du Twitch aussi, tu fais
ouais,
du stream.
Depuis peu.
C'est très marrant.
De temps en temps, mais je suis pas très régulière malheureusement. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont beaucoup aidé à organiser tout ça parce que c'est très technique. Et j'adore faire des lives parce que c'est cool d'avoir les commentaires en direct, de pouvoir répondre aux gens. Et il y a une certaine proximité que je trouve trop bien sur Twitch. Et puis surtout, on peut faire plein de trucs. On peut jouer aux jeux vidéo. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup. Donc ça me rappelle un petit peu à ces trucs-là que j'aimais bien faire.
Ok. Et puis ta chaîne YouTube aussi, où tu sors de temps à...
Ouais.
T'es pas très régulière sur YouTube.
Ouais, mince, c'est remarqué.
Mais c'est bien en plus. C'est trop bien ce que tu fais. C'est dommage.
Merci, c'est gentil.
Merci beaucoup.
Bah merci à toi
Carla,
de m'avoir
c'était trop
reçu.
Chouette. Un grand merci. Et puis merci également à Marguerite qui était là sans y être, vraiment. Des bisous.
Bisous.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.